Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Bonjour à tous, entre chien et loup, opus du mercredi. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage, contrairement à la semaine dernière où Corneille n'a pas voulu venir pour parler du menteur, là, Yann Rezeau est venu pour parler de sa dernière création. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors j'ai dit tout de suite à Yann Rezeau qu'il allait bosser un max. Donc déjà, comment s'appelle votre dernière pièce ?
Ça s'appelle De l'ambition.
C'est bien, c'est exactement celle que j'ai vue.
Ça tombe bien.
Ah, ça tombe bien, voilà. Et vous êtes venue avec deux comédiennes de cette pièce qui m'a beaucoup plu. Et que, pouvez-vous nous les présenter ?
Elles vont se présenter elles-mêmes parce qu'elles ont des noms extrêmement compliqués à prononcer, donc je ne vais pas prendre de risques.
Bonjour, je m'appelle Inès Weinberger.
Bonjour, je m'appelle Clara Baumzesser.
Très bien. Donc, ça se joue actuellement où ?
À la Manufacture des Abbesses, à Paris.
Très bien, et ça tombe bien, c'est exactement là où je l'ai vu. Tous les jours, à quelle heure faut-il
du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 17h.
Voilà. Donc, il y a d'autres comédiens sur scène. Et je dois dire que lorsque j'ai vu le spectacle, je me suis dit, là, il y a des jeunes comédiens dont on va entendre parler longtemps parce que j'ai été confondue par l'émotion et le talent qu'ils nous apportaient tous.
Bah, je suis d'accord avec vous. Je trouve ces cinq comédiens assez incroyables. J'ai eu la chance de trouver. Je fais un très long casting pour les trouver. C'était des rôles difficiles à caster. Et je suis très fier d'eux. Ouais.
Est-ce qu'on les cite tout de suite pour ne pas avoir de problème conflictuel quand vous rentrez en scène, c'est mieux. Voilà.
Alors en plus de deux comédiens formidables qui sont ici, on a Julien Baudouin, Gabriel Valadon et Gaïa Samak.
Voilà. Donc, alors, moi, je suis un peu déçu parce que je venais avec les garçons et Francky, qui les a dit, venez avec les filles. Je plaisante. Donc, ce qui est formidable pour vous, c'est que la manufacture, c'est votre lieu. Donc, est-ce que ça influence énormément lorsque vous écrivez ?
Je sais où ça va se jouer, donc je connais les contraintes du lieu et je peux m'adapter à ça. Après, c'est surtout une grande liberté de pouvoir écrire comme je le veux et d'avoir de comptes à rendre à personne. Et donc, voilà, j'ai cette liberté-là de pas devoir penser à ce que ça va plaire à tel producteur, devoir convaincre quelqu'un. Et ce qui fait que je peux faire des choses extrêmement personnelles.
Voilà. Et puis, bon, le décor, il y a beaucoup de mobilité. Donc, alors, parlez-nous du sujet de l'ambition. On est avec des jeunes qui ont 16 ans à peu près.
Ils ont entre 16 et 17 ans. C'est vraiment une pièce sur la fin de l'adolescence.
Voilà, la fin de l'adolescence.
Plus que sur l'adolescence, c'est sur la fin de l'adolescence. Ouais. Ils sont vraiment.
J'ai envie de dire que c'est la fin d'un cycle.
C'est la fin, ouais, la fin d'une histoire. C'est aussi la fin d'une amitié. C'est quatre jeunes qui étaient très très proches et ils sentent que c'est bientôt fini, qu'ils vont partir en des horizons très différents et qu'ils sont à la fin d'une très belle histoire, mais voilà, le groupe est en train d'imploser pour plein de raisons et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce moment-là de basculement de l'adolescence à l'âge adulte qui est difficile, qui est parfois brutal d'une seconde à l'autre, on a l'impression que tout change et puis parfois ça s'éternise, ça s'étire et la pièce explore beaucoup ça.
Alors, parlez-nous de votre personnage. Représentez-vous. Parce que j'aime moi, je suis.
Alors, je
j'ai Alzheimer et en temps plan. Faut tout me redire plusieurs fois.
Alors, je m'appelle Inès Weinberger et dans la pièce, je joue le rôle de Parvaneh, qui est d'origine iranienne et en fait, qui se retrouve finalement à un moment charnière parce que du coup, elle se pose la question de savoir si elle va potentiellement retourner en Iran parce que ses parents ont envie de retourner là-bas et de retrouver leur pays. Et donc, elle se retrouve un peu déchirée entre sa volonté de suivre ses parents et de rester attachée à sa famille, et puis sa volonté de s'émanciper peut-être et d'accomplir ses propres choix et de poursuivre sa vie ici.
Je trouve qu'en plus, ça prend une coloration avec ce qui s'est passé en Iran.
Oui, c'est fou. On est vraiment rattrapé par l'actualité parce qu'on parle évidemment du voile.
Voilà, du voile. Et voilà. Mais ce que je trouve très beau dans votre personnage, c'est que vous dites des choses. C'est que nous, j'ai presque envie de dire, en Occident, on a un regard par rapport à ça qui est souvent erroné. Moi, j'ai beaucoup d'amis iraniens. Et c'est aussi par rapport au voile, par rapport à des traditions qu'elle fait sienne, par rapport aussi à des choses qu'elle voudrait bousculer ou changer. Et puis c'est cet amour, enfin ses parents lui font une preuve d'amour complètement incroyable, parce que ils sont séparés pour qu'elle puisse faire ses études, parce qu'ils ont très bien compris que les études qu'elle fait ici en France, elle pourrait pas forcément les faire comme en Iran, même si l'Iran n'est pas l'Afghanistan. Hein. Il faut bien le dire que les femmes peuvent aller à l'université, qu'elles peuvent aller, peuvent avoir des emplois. C'est pas l'Afghanistan qui est pire que le Moyen Âge. Donc ça voilà. Mais voilà. Alors pour votre rôle, est-ce que vous vous êtes documentée? Comment ça s'est passé pour nourrir votre rôle?
Je dirais que je me suis renseignée évidemment sur sur le pays, l'Iran, qu'est-ce qui se passait. C'est vrai que Yann, quand s'est posé la question de savoir aussi comment je porterais le voile, m'a tout de suite indiqué que effectivement là-bas la façon de porter le voile était beaucoup plus comment dire détendue.
Détaché, c'est ça. Détaché. Très peu strict justement dans la manière de porter le voile.
C'est ça.
Plus maintenant, mais à un moment donné, il fallait même pas qu'une mèche de cheveux s'échappe. Donc elles avaient un truc, je vous dis, par rapport aux Iraniennes, elles sont très coquines. Elles avaient un truc avec les lunettes de soleil pour mettre comme ça, ce qui leur permettait d'avoir une mèche de cheveux. C'est la police. Existait déjà naturellement. Elles disent, oh mais c'est mes lunettes de soleil qui ont fait la voilà.
T'es devenu effectivement beaucoup plus détaché, beaucoup plus libre. Il y a toujours des drames. Et puis là, ce qui se passe ces derniers jours, effectivement, fait écho dans la pièce de manière assez forte. Mais il y a une, effectivement, l'Iran, c'est un pays intéressant parce que c'est une république islamique. Mais les femmes sont effectivement pas enfermées comme en Afghanistan dans un Moyen-Âge. Elles sont opprimées, elles sont rabaissées. Il y a plein de choses qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ont quand même accès à la vie publique. Elles peuvent travailler dans certains métiers, etc. Donc c'est
d'ailleurs, moi, j'admire leur courage.
Oui, elles ont un courage incroyable.
Parce qu'elles brûlent leur voile, elles se coupent les cheveux et elles manifestent. C'est comme les Russes qui manifestent contre et qui disent que Poutine est un salaud. Quand on se plaint de la France, je veux dire, réfléchissez un peu à ce qui se passe.
Ce que je trouve intéressant dans le personnage de Parvanet, c'est qu'elle ne rejette pas sa culture d'origine. Elle y est très proche, ses parents sont très proches, et eux, ses parents, qu'on ne voit pas dans la pièce dont elle parle, ont du mal à se faire à la culture française. Ouais. C'est compliqué, c'est difficile. Et du coup, ils pensent à retourner là-bas, malgré tous les problèmes, malgré la difficulté d'être une femme là-bas. Mmh. C'est plus compliqué que d'être ici. Et Parvanet est aussi déchirée dans ses deux choix. Elle aime ses parents d'amour inconditionnel. Elle est aussi pieuse, elle est croyante, elle cherche une manière d'être croyante dans ce contexte-là. Et elle est amie avec des gens qui sont très loin de tout ça et qui ont une vie beaucoup plus décadente que peut-être la plupart des adolescents. Donc elle est déchirante dans les deux trucs et c'est très compliqué pour elle de faire un choix parce que les deux pôles l'attirent équivalent.
Alors Inès m'a confié qu'elle s'était mise au persan. Au farci, donc quand même bravo Inès.
Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pu aller voir Leïla et ses frères là en langue originale, donc c'est très pratique.
Et d'ailleurs les mardis à minuit, elle joue la pièce entièrement en persan. Bravo, bravo, bravo. Alors, et vous rappelez votre nom?
Alors moi, je m'appelle Clara Baumzesser.
Et votre rôle?
Je joue le rôle de Cécile dans la pièce. Je pense pas que Cécile saurait vraiment elle-même se décrire et je pense pas qu'elle en aurait l'envie, mais seulement ce que je peux vous dire, c'est que Cécile se retrouve dans ce tumulte de ces quatre adolescents un peu malgré elle et finalement je pense que c'est ça qui va la déterminer et ça elle va s'en rendre compte petit à petit au cours de la pièce.
Parce que Cécile est un pas... Finalement, je trouve que votre rôle, Inès, votre personnage, est plus dans le groupe, malgré sa race, sa religion, son voile et tout ça, que vous, qui êtes française, qui êtes théoriquement plus proche des autres du groupe.
Ouais, alors là, je pense que c'est c'est absolument pas les mêmes enjeux pour Cécile. Moi, ce qui est intéressant, c'est que ce sont toujours des questions de se trouver, d'identification, de se trouver au sein d'un groupe, mais c'est des enjeux qui sont radicalement différents. Cécile, c'est quelque chose qui, en fait, finalement, presque tournait beaucoup plus vers les autres, tandis que Parvanet, j'ai la sensation que c'est une quête qui est presque beaucoup plus personnelle. Cécile, elle a besoin de se trouver par rapport aux autres.
Oui. Mais même Cécile, je pense qu'elle a besoin de se retrouver par rapport à elle-même.
Mmh. Ouais. Et de se situer dans le monde aussi. C'est quelqu'un, Cécile, qui est terrifiée par le contact avec les gens, qui est incapable d'avoir une interaction, de parler avec des gens. Mmh. Et au début de la pièce, elle ne parle avec personne. Elle a grandi avec les quatre autres, mais elle n'aura jamais adressé la parole. Et elle devient l'enjeu d'un conflit entre deux autres personnages, mais malgré elle. Et le fait de devoir avoir une discussion, de devoir regarder quelqu'un dans les yeux, c'est une souffrance physique indécible.
Ouais.
C'est
mais à la limite, elle est presque autiste d'elle-même, quoi.
Ouais, elle est autiste, c'est une espèce d'autisme social. Elle a pas de problème psy, elle est pas malade, mais elle est tellement seule. C'est la personne la plus seule que vous avez pu imaginer dans le monde. Ouais, ouais. Et elle a réussi à fonctionner comme ça pendant un certain temps, et elle arrive à un point où c'est plus possible, où la solitude est devenue une souffrance, donc il faut qu'elle s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Et quelqu'un, à un moment, va lui tendre la main, et ça va pas se passer hyper bien, mais c'est le point de départ de quelque chose quand même, et elle va essayer de sortir de ça avant qu'il se passe quelque chose de dramatique, parce qu'elle est à la limite de ce qu'elle peut supporter.
Alors, on va faire une pause musicale qui n'a strictement rien à voir avec le sujet. On va se mettre un extrait de Zoudia Mama, Marc Béhin. Pourquoi ? Bah parce que j'aime ce titre, qu'il est très gai, qui va nous mettre du soleil, et que après, on va revenir à nos invités pour ce joli spectacle. Go on, Sam.
Kabuja mwana wa fyoti kutianti wena jo mwanansana ngujika kweto meke meno kondo mama sana nchuka pele Meno kondo lo mama sana nchuka pele Hambe koko na nwa Kababa kanakako Manalo samamba kumanima Nani kunja kamu Nani nani hey. Vuta kunjega sakwani hey. Oh. Meno kondo yo mama Mzana ntuka bebe Mama, sana nchuka pele. Thank you.
IDFM 98 FM.
C'était Zoudiamama de notre ami Marc Béhin que nous vient, qui viendra nous voir bientôt. Et alors, les filles m'ont dit, mais où peut-on se procurer ce disque qui nous met du soleil au cœur? Elles sont déchaînées. Quant à Yann, il dansait carrément sur la table, c'est vous dire. Donc c'est le disque Zoudiamama, Marc Béhin et le Chedley Band. Voilà. On en repassera un autre extrait. Je suis avec Yann Rezeau et ses comédiennes pour sa nouvelle pièce qui se joue actuellement à la Manufacture des Abbesses, rue Véron.
Absolument, 18e à Paris.
Voilà. Où je prie le ciel que la maire de Paris ne supprime pas les quelques places handicapées qui nous restent encore, car je tiens à le redire, les handicapés qui prennent leur voiture, ce n'est pas pour un vice anti-écologiste, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Merci, madame la maire de Paris, d'arrêter de supprimer les places pour les personnes handicapées et même d'en remettre systématiquement devant les lieux de culture. Voilà! Il y avait longtemps que je ne vous avais pas parlé, madame la maire de Paris. Ah, j'aimerais qu'on recite... On va parler des garçons, parce que les filles, elles sont là, on va parler d'elles. Mais on a deux garçons qui sont très différents.
Les personnages, oui.
Oui.
Il y a effectivement, il y a Jonathan qui est un peu le comment dire, l'angoissé et le rebelle. En tout cas, il joue le rôle du rebelle. Il se complaît un peu dans le rôle du rebelle. Il cherche à définir une place très précise et très très particulière. Il est obsédé par le fait d'être libre et de pas mentir jusqu'à la caricature. Parfois, il le sent lui-même qu'il s'enferme un peu dans une caricature, mais il cherche à définir qui il est de manière très radicale. Il est obsédé par cette idée-là et il est enfermé dans un conflit avec son amoureuse Léa où ils sont dans une relation fusionnelle, passionnelle et aussi extrêmement malsaine où ils sont la pire chose qui peuvent arriver l'un à l'autre et ils n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre et ils essayent de se fuir mais ils n'y arrivent pas. Et la pièce explore ça aussi, une relation très toxique qui peut venir de personnes qui s'aiment énormément, qui ont conscience que c'est pas une bonne idée, mais qui n'arrivent pas à se détacher jusqu'à ce que ça aille un peu trop loin.
Oui, c'est vrai que il y a parfois des relations comme ça toxiques. Mais alors, en plus, ils ont une emprise sur le groupe, tous les deux, à différents niveaux.
Oui, à différents niveaux. Ouais. C'est-à-dire que Léa, la personne dont on n'a pas encore parlé, est un peu la chef naturelle du groupe. Elle est celle qui aime les autres, qui veut sauver les autres, qui veut sauver ses amis, et puis la terre entière, si c'est possible. Et donc, elle va voir tous les personnages. La pièce débute comme ça. Elles sont dans une salle de classe où la prof est pas là, ils s'ennuient un peu. Et elle va voir chacun de ses trois amis les uns après les autres pour les aider. Ils ont rien demandé, mais elle veut les aider, elle veut les accompagner, elle veut essayer de faire en sorte qu'ils soient ensemble et qu'il se passe quelque chose de bien, et elle va vers ça. Et Jonathan a l'impression que ce que dit et ce que fait Léa est un rôle et une pose, et il y croit pas, et il est mal à l'aise par ça. Il a l'impression qu'elle joue le rôle qu'on lui a assigné, mais que c'est pas quelque chose de sincère. Et ils ont ce conflit très violent qui les anime et qui va un peu les dévorer.
Mais c'est vrai que, enfin, on joue tous un rôle. Comme vous avez lu la pièce, les filles, qui est de très très vieilles comédiennes, donc vous êtes très proches de ce monde et de cet âge. Est-ce que vous étiez, je connais ce personnage. Ah bah oui, j'ai rencontré. Comment vous avez pris la pièce, Inès?
Moi, je pense que la première lecture, effectivement, c'est un texte qui est très proche de nous, qui nous parle forcément à plusieurs endroits, si ce n'est pas tous. Je pense qu'effectivement, le personnage de Cécile, c'est vrai qu'on a tous rencontré, je pense, au moins une fois dans une de nos classes, un personnage complètement en marge, à qui personne n'adresse la parole, qui reste dans sa bulle, même si ça prend pas forcément les mêmes proportions. Et puis après, oui, moi je trouve que le personnage de Léa, par exemple, il y a aussi quelque chose de qui dit beaucoup de la jeunesse, de la fougue qu'il y a dans cette période où il y a aussi des gens qui sont très moteurs, qui vont prendre beaucoup les choses en main. Donc non, il y a beaucoup de choses qui étaient très proches de nous et qui ont résonné dès la lecture.
Je vais être indiscrète, quel âge avez-vous?
22 ans.
Oh la vieille, et vous?
21.
Oh, pour là 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 là. Vous savez, faites attention, parce que c'est bientôt fini pour non. Et vous, comment vous analysez ces personnages? Quelle était votre impression la première fois que vous avez lu la pièce de Yann?
Effectivement, ce que disait Inès, c'est assez vrai. Je pense que chacun d'entre nous, on peut se retrouver, enfin je parle des comédiens, on peut se retrouver par petites touches dans chacun des personnages. Et c'est ça qui est assez agréable finalement, parce que on comprend donc certaines actions et on se retrouve dedans. Et c'est ça.
Est-ce que parfois vous avez eu envie de dire à Yann, ah oui, mais tu vois, cette phrase, nous, on l'aurait pas dite comme ça, ou ça correspond, parce que Yann, il est super vieux. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu des ajustements de texte comme ça, d'une manière collégiale?
Franchement, il y en a eu, mais très
peu. C'est minime. Hein.
Très peu, parce que le texte était déjà très proche vraiment de nous. Il y a eu quelques tout petits ajustements.
Des choses naturelles qui ne sont même pas liées au fait que les pièces soient sur l'adolescence. C'est juste que quand on répète, les acteurs s'approprient le texte. Oui. Et puis parfois, il faut laisser quelque chose qui leur paraît plus naturel, que ce soit mieux ou moins bien.
Je ne pense pas que mon personnage dirait ce que Nenny.
C'est plus quelque chose de spontané qui se passe et qu'on garde tout d'un coup parce que ça fonctionne mieux et qu'il faut être à l'écoute de ce qu'ils sont. Parce que c'est un théâtre d'incarnation. Donc à un moment, il faut qu'ils incarnent le personnage et que ce qu'on cherche, c'est une quête de vérité et de justesse. Oui. Donc dans ce type de théâtre-là, il faut laisser une marge aux acteurs. Après, c'est pas de l'improvisation. Hein. 95% est écrit, mais il y a des respirations, il y a une manière de s'approprier le truc qui est pour moi très importante.
Bouchez-vous les oreilles. Alors, est-ce qu'il frappe toujours ses comédiens ou c'est mieux dans la direction d'acteur?
Alors, on n'a pas eu écho.
Merci, là, c'était pour mon honneur.
Yann n'avait pas bouché ses oreilles. C'est pas cool. Hein.
Justement, moi, je trouve que on a, en fait, pour le coup, je trouve que Yann a été un très bon, au-delà de metteur en scène, pédagogue, puisque nous cinq, on interagit et on est très différents les uns des autres. Et je trouve que Yann a pris le temps de un peu découvrir chacun d'entre nous pendant le travail au plateau et de pouvoir discuter avec chacun de choses qu'on ne comprenait pas ou qu'on avait du mal à se visualiser dans certaines situations. Et c'était quelque chose on a beaucoup, beaucoup échangé. En tout cas, moi, avec Yann, ce qui revient le plus, c'est que je trouve qu'on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté. Moi, s'il y avait certaines choses que je comprenais pas ou que j'avais un peu de mal à aborder, il était toujours là pour expliquer les enjeux, pourquoi telle chose, pourquoi ci, pourquoi ça.
Et Yann, comment avez-vous trouvé vos comédiens?
C'est un très long casting. J'ai fait un casting particulièrement long et difficile parce que c'est des rôles, effectivement, des personnages qui ont 17 ans. Et il faut trouver des acteurs, pour moi en tout cas, qui puissent être crédibles dans ces rôles-là. Souvent en théâtre, on s'en fout et on prend des acteurs de 30 ans pour jouer Roméo et Juliette, ce qui m'a toujours un peu choqué. Et moi, j'ai envie de m'approcher le plus près possible de cette réalité. Sauf que quand on prend des acteurs très jeunes, on prend des acteurs par définition qu'on peut l'expérience, on peut pas leur demander d'avoir 15 ans d'expérience à 20 ans. Donc du coup c'est un peu la quadrature du cercle. C'est un casting très très difficile et long et on a beaucoup travaillé avec mon assistante pour
vous avez une vieille hein. Inès, elle a 22.
Oui, 22. Inès, c'est un peu tapé.
C'est pas la plus vieille.
Allez-y, balancez, Inès.
Ils sont effectivement, c'est des très jeunes acteurs. Donc, il faut à la fois trouver cette spontanéité là et en même temps la capacité à jouer des rôles qui sont extrêmement difficiles. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Clara notamment parce que son rôle est particulièrement difficile. Il y a des choses qui demandent un lâcher prise, une capacité à se jeter dans l'inconnu et à explorer des émotions très très extrêmes qui sont compliquées, quoi, où il faut beaucoup de courage.
Là, je réagis sur deux choses. C'est vrai, on parlait de Roméo et Juliette, mais il y a un film de Roméo et Juliette où la Juliette est Norma Shearer, qui était qu'une grande star de l'époque. Elle a plus de 40 ans. Et Leslie Howard, mais ça ne choquait personne à l'époque. D'où vient le célèbre sketch de Robert Hirsch qui a faisait une Agnès de l'École des femmes qui avait plus de 80 ans? Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez. Robert Hirsch, c'était lors d'une soirée exceptionnelle, qui fait la vieille Agnès. Croyez-moi, c'est drôle parce que il y avait, par exemple, à la Comédie Française autrefois, on était tenant de son rôle. Donc on pouvait le tenir, même si on avait largement dépassé là. Bon, ça choquait moins que maintenant, parce qu'il n'y avait pas encore autrefois les portes du cinéma et d'ailleurs qui ont changé beaucoup les choses. Et Zeffirelli, lorsqu'il a fait son très beau Roméo et Juliette, justement, a pris des comédiens qui avaient l'âge du rôle. Est-ce que vous dites c'est vrai que c'est parfois on a l'âge du rôle mais on n'a pas? Et surtout, moi, je vais vous faire un grand compliment sur votre écriture, c'est que le parler est juste, parce que dans le théâtre, très souvent, lorsqu'on fait parler les jeunes, ben, c'est un langage qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on est avec ces jeunes et que ce sont des choses qu'on a vécues à différents niveaux. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont tous un peu peur, parce que quand on sort du giron de l'école, du lycée, on va passer pour autre chose. Déjà, ne fût-ce que le travail à l'université est complètement différent et qu'il faut se prendre en main personnellement pour travailler. Il y a des gens qui échouent. Et donc, c'est ça aussi dans la vie, s'il y a une émancipation. Et d'ailleurs, c'est très beau quand vous êtes tous dans votre appartement, là.
Ouais, il y a un épilogue sur la fin où ils sont effectivement sortis de ça, mais effectivement le lycée, il y a un côté un peu infantilisant, c'est qu'on se sent déjà adulte et en fait c'est une garderie, il y a des horaires et puis on est censé faire des trucs qu'on n'a pas choisi en plus, et que tout d'un coup du jour au lendemain c'est fini et on doit se projeter dans l'âge adulte, et la pièce explore ça et aussi dans les rapports humains, c'est qu'ils ont grandi ensemble, ils sont un peu contraints par leur histoire, par leur enfance qui s'est éternisée, et tout d'un coup ils doivent choisir s'ils veulent toujours rester ensemble ou pas, et ils font des choix très différents, mais ouais, c'est sur ce basculement-là, ouais, qui m'intéresse.
Alors, à la demande unanime de Yann et toute sa troupe, on va faire une nouvelle pause musicale avec une chanteuse que j'aime beaucoup. C'est la belle Terry. Et on vous dira après le titre de l'extrait qui sera dit par Francky. On écoute Terry.
Tu penses à moi, que tu m'attendras.
Alors, c'est promis, Yann, lorsque Terry fera un concert, on vous le dira, parce que je donne comme elle un conseil d'amis. Oh, mais quel enchaînement tout à fait extraordinaire! Je suis avec Yann Roseau et ses comédiennes pour ce spectacle qu'il faut aller voir, de l'ambition. Mais on va peut-être parler aussi quand même du théâtre dont vous êtes le directeur.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir actuellement chez vous?
Ah, il y a deux spectacles, une pièce qui s'appelle Tom à la ferme, qui est
un très beau texte,
ouais. Ouais, qui est un magnifique texte, et une autre qui s'appelle le Chaperon rouge de la rue Pigalle, qui est sur la vie d'une prostituée de la rue Pigalle, une des dernières.
Alors, d'ailleurs, quand on vient voir de l'ambition, on peut voir la pièce d'avant qui est le
Tom à la ferme. Ouais.
Voilà, Tom à la ferme, d'accord, ok. Donc, voilà, puis on est toujours très bien accueillis chez vous.
Merci, c'est gentil.
Non, c'est vrai.
Ça fait chaud au cœur, on essaye de faire en sorte que
on est toujours très bien accueillis. Ça fait plaisir pour les gens qui ont des problèmes. Il y a une véritable attention. Donc, ça, je le dis, c'est quand même à signaler. Et voilà, tout est fait en l'occurrence. Moi, je trouve qu'il faut à tout prix redonner le nom des comédiens. Parce okay. que,
allez-y les filles, c'est à vous de travailler.
Alors, il y a. Et vous me donnez à chaque fois le nom des personnages.
Julien Baudouin, qui joue Elliot. Il y a Gabriel Valadon, qui joue Jonathan. Il y a Gaïa Samak, qui joue Léa. Et l'incroyable Inès Vinberger, qui joue.
Parvanet.
Et Clara Baumzesser, qui joue Cécile.
Vous êtes d'origine belge?
Non.
Non, parce que Van de...
Non, c'est Weinberger, c'est d'origine allemande.
J'ai mal prononcé. Allemande, Van Weinberger. Oui, mais il y en a aussi là-bas. Hein. Alors, Yann, connaissez-vous Arne Ligre?
Je ne pense pas.
Alors, c'est un joyeux luron. Enfin, non, c'est pas vraiment... C'est un Norvégien. Et Stefan Brunswick... a eu un coup de foudre sur son théâtre, et je me souviens entre autres de la création de Je disparais. Jour de joie est actuellement à l'Odéon, c'est une création, c'est jusqu'au 14 octobre, Odéon, maison mère, parce qu'il y a les ateliers barrés. Donc la mise en scène et la scénographie et même une partie de l'adaptation est de Stefan Brunswick, avec qui il a vraiment une écoute avec Arne Lingre. Donc, que je dis naturellement en norvégien couramment, comme chacun sait, la question ne se pose même pas. Alors, que vous dire sur ce spectacle? C'est vrai que le plateau est recouvert de feuilles d'automne, avec un banc immense, et on a une mère et sa fille qui se retrouvent sur ce banc. Il y a un cours d'eau dans ce décor sylvestre et idyllique, et elles ont beaucoup de choses à se dire parce que elles vivent loin l'une de l'autre, et elles attendent le frère jumeau. Et dans le texte, il y a déjà quelque chose qui est très déroutant, parce qu'on me dit, la mère dit, la fille dit, le passant dit, donc ça déjà c'est un petit peu bizarre. Mais personnellement, j'ai trouvé que le spectacle était beaucoup trop long. 2h20, c'est quand même très long, à mon goût, à moi. Il y a quand même une écoute du texte que j'ai trouvé. J'ai trouvé que ce texte, même si au début il faut s'y mettre, quelque chose de très bizarre. C'est une autre forme de théâtre. Les comédiens Virginie et Colmin en avant. Et puis j'aime beaucoup Grégoire Taknakian. Alors, j'ai quand même envie de dire, et j'en ai beaucoup discuté avec des amis qui ont vu le spectacle comme moi, Jour de joie, n'est-ce pas une publicité un petit peu mensongère? Et l'un de mes amis a dit, oui, mais en Norvège, il faut relativiser. Bon, néanmoins, il y a des périodes drôles. Donc, de toute façon, je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir du théâtre contemporain, c'est très bien. La semaine dernière, on a parlé avec bonheur du Menteur de Corneille. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une autre optique, un autre texte. Donc, vous pouvez y aller. Mais je pense qu'il y aura des gens dubitatifs, voire distraits. Des gens se sont royalement enquiquinés. J'ai même le nom de ceux qui sont endormis. Je ne le dirai pas. N'est-ce pas, Pierre? Et par contre, il y a des gens qui sont complètement enthousiastes. Moi, je suis entre deux. Voilà, je suis dubitative. Donc le meilleur moyen, c'est d'aller vous faire une opinion par vous-même. Voilà, donc. Yann, est-ce que je peux vous demander quels sont vos maîtres, vos inspirateurs?
Moi, je réfléchis pas tellement comme ça. J'aime bien faire des choses que j'ai pas déjà vues, donc j'ai toujours tendance à fuir les références le plus possible.
Ma question était mal posée. Je voulais tout simplement savoir quels étaient les auteurs, les écrivains que vous aimiez.
C'est pareil.
Personne, Marie-Laure.
Non, j'essaie de faire des choses que j'ai pas déjà vues. Donc, par exemple, quand j'ai travaillé un sujet, si je vois quelqu'un qui se l'approprie, j'ai tendance à le prendre mal et être très sur la défensive parce que c'est mon sujet à moi. Et si je vois quelque chose d'extra, par exemple, j'avais écrit une pièce appelée La Secte, qui était l'histoire d'une secte.
Oui.
Et puis 10 ans plus tard, j'ai vu le film de Paul Thomas Anderson, The Master, qui était sur l'histoire d'une secte aussi, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et je pense que j'aurais pas écrit la pièce si j'avais vu The Master avant, parce que j'aurais trouvé qu'il n'y avait rien de mieux à faire sur ce sujet-là. Donc, je tendance à me définir plutôt comme ça, en réaction à des choses que je n'ai pas déjà vues. Et sur l'adolescence, voilà, j'avais vu beaucoup des films ou des pièces sur l'adolescence, mais je n'avais pas vu ce que j'avais envie de voir, oui. Moi, quoi. Mm-hmm. Ce bouillonnement-là, cette difficulté à basculer vers l'âge, oui, adulte.
Mais c'est
aussi
une douleur.
Ouais, c'est
aussi,
une douleur.
Il faut bien dire,
c'est
une
combat
douleur,
aussi.
Oui.
C'est un combat de savoir ce qui reste de ses convictions aussi. C'est aussi une pièce sur les convictions, sur ce en quoi on croit et comment on peut réussir à les tenir et à les amener jusqu'à l'âge adulte, ou est-ce qu'on doit changer complètement de voilà. Et puis sur le courage, quoi. Les personnages de Cécile et d'Eliott, dont on n'a pas parlé aussi, sont des personnages qui sont très très seuls et ils essayent de trouver une place, ils essayent de se définir, ils essayent de se révolter aussi contre eux-mêmes, contre leur solitude, contre leur état, et j'ai envie d'explorer ça parce que je l'avais pas déjà vu ailleurs, en tout cas pas comme j'avais envie de le voir.
Est-ce que vos pièces sont éditées?
Elles sont éditées pour la plupart, ouais, Actes Sud.
Est-ce que vous avez d'autres compagnies qui vous ont proposé, qui vous ont fait une demande pour les monter?
Oui, ça arrive. Après, c'est des pièces qui sont parfois très longues. Ça met pas les pièces longues. Celle-là est très courte, à 1h30. Mais j'ai tendance à faire des pièces très longues, donc difficiles à monter.
Moi, je vous avais dit, Yann, quand j'ai appris que vous allez monter un nouveau spectacle, je lui ai dit moins de 15 heures, hein,
ouais,
quand même.
Ouais. C'est vrai que j'ai fait une pièce qui avait très bien marché, qui s'appelait Chute d'une Nation, qui faisait, oui, 8 heures.
J'y pensais, justement.
Voilà. Mais comme quoi la durée parfois est pas un piège.
Ah, vous savez que la durée au théâtre, elle est relative.
Ouais.
Moi, je dis toujours, rien ne fait à l'affaire. Je me suis profondément, pardonnez-moi d'être trivial, emmerdée à une pièce qui faisait 48 minutes. Et mon compagnon me disait, viens, on s'en va. J'ai dit, non, décemment, on ne peut pas. Non, je ne peux pas. Ça a été 48 minutes très...
Très, très long, ouais.
Ah, oui. Et puis d'autres pièces où le temps... voilà, donc, c'est pour ça que je dis, le temps au théâtre est extrêmement...
Non, mais si on fait 1h30, mais je pense que c'est une pièce très courte, parce qu'elle est très dense.
Non, parce qu'elle est très dense, oui, c'est ce que j'allais dire.
Il y a que 5 personnages, mais il leur arrive tous une histoire incroyable. Il n'y a pas de personnage principal vraiment, mais il y a 5 destins qui sont bousculés et qui vont très très loin, et plusieurs révolutions même dans le parcours de chaque personnage, qui font que ça fait 1h30, mais je pense qu'on a vu 5 vies basculer plusieurs fois.
Il y a quelque chose, c'est une révolution. Avant que nous parlions du décor, on va faire à la demande générale une autre pause musicale. On va retourner avec notre ami Marc Béhin. Et Marc Béhin avec Zou Diamama. Écoutez, on va parler de... J'hésite. Alors les filles, vous choisissez le titre. Ou c'est question, ou c'est dévoreur de monstres.
On va partir sur dévoreur de monstres, je pense.
J'en étais sûre. Dévoreur de monstres.
Thank you. IDFM 98 FM.
Voilà, donc c'était Dévoreur de monstres, choisi à l'unanimité par les filles, de Marc Béat. Yann, donc Yann, on est obligé, parce que je suppose que vous n'avez pas beaucoup d'arrière pour les décors à la manufacture des abbesses.
Oui, c'est une petite salle, donc il faut être un peu inventif. Ouais.
Donc, pour les décors, ça doit être extrêmement vif, rapide, avec des... Parlez-nous de la scénographie de l'ambition.
Y a plusieurs éléments, mais qui permettent de faire beaucoup de choses différentes. Donc, c'est un décor qui est très malléable et qui permet de créer différents lieux, différents endroits que j'aime beaucoup. Il est très simple, mais très joli. Les lumières, le mettre vraiment.
C'est difficile à expliquer. Pardon, excusez-moi, qui a fait
le scénographe, c'est Goury. Ouais. Il est difficile à raconter parce qu'il est il est très simple, mais très joli. Il y a un travail sur les textures, sur un truc très noir, mais qui est très brillant à la fois.
Pour dire, c'est des modules entre la boîte et tout ça qui bougeaient, vont servir à faire un lit, une table.
C'est ça, ça.
Et on comprend tout de suite.
Ouais.
Je veux dire, le spectateur comprend tout de suite où on va être et ce qui se passe.
Les lieux sont assez simples, mais assez signifiants.
Mais qu'est-ce qu'on est intelligent.
Et ils sont assez emblématiques de là où ils vivent. Donc, il y a la salle de classe, ouais. Ils passent leur vie là-dedans. Donc ça commence dans une salle de classe, ça me paraît assez évident. Il y a l'appartement d'un des adolescents qui est un peu la base de tous. Il y a la cafétéria où ils se retrouvent aussi, encore une fois, où le groupe vit. Et puis il y a la chambre de Cécile, qui est l'endroit où personne ne va jamais, qui est l'endroit secret. Mais il y a quand même une scène capitale qui se passe là-dedans, où effectivement Cécile et Elliot arrivent à briser leur solitude et à se rencontrer de manière un peu miraculeuse. Et puis il y a un épilogue, effectivement, on bascule après l'adolescence, quelques temps après, pour voir comment ils sont réussis à surmonter tout ça et qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Non, mais c'est très important le décor, justement, parce que les comédiens, vous êtes en même temps les machinistes.
Absolument.
Donc, donc on assiste à cette transformation de lieu, comme on assiste à la transformation, c'est aussi une transformation du corps, de l'adolescence à un autre âge.
Ouais.
C'est aussi plein de choses, de bouleversements qui peuvent être très violents. Moi, j'aimerais savoir, mesdemoiselles, quand vous avez décidé d'être comédienne.
Magnifique question pour Inès et Clara.
Allez, Clara. Non, c'est vous, Clara.
Je suis impatient d'entendre les réponses aussi.
Non, mais je... Malheureusement, je ne pourrais pas donner de réponse très précise, je crois. Je sais pas.
Est-ce que vous parlez pas un tout petit peu plus fort?
Je sais pas.
J'ai décidé de vous torturer.
Ouais.
Ils m'ont dit, Yann m'a dit, faut torturer Clara.
Non, faut pas torturer Clara.
Non.
Mais c'est difficile parce que c'est une très jeune comédienne et en l'occurrence Clara est encore en cours et encore en train de se questionner sur son avenir, sa première pièce vraiment professionnelle. Donc c'est un énorme bond en avant, un peu pour tous. Il y en a certains qui ont un peu plus d'expérience, mais c'est quasiment tous quand même une de leurs premières un premier spectacle. C'est ça que je trouve beau aussi, c'est d'amener des très jeunes acteurs et de leur offrir une première expérience et de les avoir vus aussi grandir. Les répétitions ont été une expérience assez incroyable parce que on se connaissait pas, je l'ai pris sur casting, donc on a appris à se découvrir.
Vous avez rodé dans les cours de théâtre, Yann?
Non, c'est mon assistante.
Avec un imperméable et donc.
C'est presque ça, ouais. Non, on avait beaucoup de gens qui étaient en cours, qui sortaient tout juste de cours, mais à partir de, 25, 26 ans, ça commençait déjà à être un peu trop vieux pour nous, donc. c'est une question de perception. On peut avoir des gens très vieux qui ont l'air jeunes, mais quand même, l'adolescence, c'est un âge particulier, donc il faut pas trahir ça. Donc le fait est qu'ils sont aussi de jeunes comédiens qui sont quasiment pour la première fois sur scène. J'exagère un petit peu, mais il y a un peu de ça aussi, donc, ils sont au début de cette expérience-là, et ça reste quelque chose de nouveau.
Pour Clara, ça va demeurer mystérieux, elle ne veut pas nous dire.
Oui, je reste mystérieuse.
Est-ce que sur scène, vous transcendez soi-même? Est-ce que vous êtes bien sur scène?
Ah oui, sur scène, je suis bien.
Ah. Ouais. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai rencontré un comédien il y a quelque temps, et qui a abandonné. Parce qu'il adorait jouer, mais il était paniqué en public. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur scène, il y a beaucoup de comédiens, il vomissait systématiquement. C'est une anecdote un peu lointaine, puisque l'un de ses professeurs, c'était Pierre Dux. Et Pierre Dux lui avait dit, écoute, c'est très simple. Si dans ta vie, tu es malheureux, tout le temps, il faut que tu abandonnes.
C'est un métier difficile de monter sur scène, ça demande beaucoup de courage.
Il faut le redire.
Et
c'est un métier, moi j'insiste toujours sur le fait d'être comédien, ce n'est pas un passe-temps, c'est... Enfin, Yann, je vous interdis de parler parce que je veux savoir comment... Comment, Inès, vous avez décidé de prendre des cours et d'être comédienne ?
Oui, alors, moi, je pense que c'était un désir fort qui a toujours été là, mais sans trop forcément que je sache exactement ce que c'était. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de jouer parce que je pense que plus jeune, plutôt, j'étais assez timide et que les expériences de scène, c'était ce qui me permettait à ce moment-là de me sentir bien et puis de me révéler aussi autrement. Et j'ai fait un premier stage de théâtre à la fin de mon lycée, justement. Et ça a été une expérience qui a un peu changé beaucoup de choses à ce moment-là. Justement, j'étais dans une période de rupture, à pas exactement savoir vers quoi je voulais aller, ce que je voulais faire. C'était assez violent, la terminale. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était quelque chose qui pouvait vraiment me nourrir et me faire énormément de bien. Et j'ai vraiment eu envie d'aller sur ce chemin-là.
Vous êtes dans quel cours ?
Alors, moi, je suis au conservatoire du 18e.
Oui. Moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose.
Allez-y. Allez-y, je vais interdire de parler. Vous allez pouvoir aller. Vas-y.
Non, mais... la scène, en tout cas, quand vous parliez du comédien... qui a arrêté, c'est un lieu, en tout cas je parle en mon nom, qui est extrêmement questionnant, qui nous remet en question tous les soirs, puisque là actuellement on joue presque tous les soirs. C'est pas forcément un lieu qui est agréable, mais qui en fait pose tellement de questions. Et c'est un lieu très challengeant et c'est pour ça en fait qu'on a envie, et moi aussi j'ai peur, je pense pas être la seule à avoir peur de monter sur le plateau, mais c'est ça aussi qui donne l'entrain et qui crée la vie en fait, qui crée que c'est réel ce qui se passe, c'est pas scénarisé quoi. Et j'avais moi j'étais au cours Florent et j'ai eu la chance d'avoir un très bon professeur qui s'appelle Yégé Klesic et qui nous disait quand tu rentres sur scène, avant de rentrer sur scène, tu fais ton testament quoi. C'est-à-dire que tu rentres sur scène comme dans une arène. Donc cette peur-là, elle est motrice du jeu. C'est ce qui crée, en tout cas pour moi, c'est mon engagement, la peur. Je préfère l'affronter et l'utiliser, en fait. Sinon, c'est effectivement très paralysant et déstabilisant.
Ouais. C'est intéressant, vous savez, de savoir des parcours et ce que l'on ressent aussi par rapport à tout ça. En plus... Pour ceux qui ne connaissent pas encore le théâtre, c'est pas un lieu très grand, donc le public, il est, c'est le cas de le dire, il est à vos pieds. Donc il faut savoir aussi être jouer avec le public et savoir aussi avoir une certaine distance.
Il y a un rapport dans la salle de la Manufacture Azabès où on est très proche effectivement du théâtre et dans ce genre de spectacle-là, je pense que c'est important de pouvoir de sentir la présence des acteurs. Moi, j'ai joué parfois dans des salles très grandes, je perdais un peu le sens du truc, quoi. C'est vrai que ça devient très technique et puis on perd le rapport directement au public. Alors ça dépend des types de spectacle qu'on fait. Si on fait du grand spectacle, voilà, ça peut être très bien, mais pour une pièce comme celle-ci qui est en plus vraiment sur l'intime, qui est sur l'extrême intimité même. Il y a quelque chose d'assez impudique dans certains parcours. Je pense qu'il y a quelque chose de très précieux d'être dans une configuration comme ça, très très proche.
Et est-ce que vous avez eu de retour justement d'un public qui a l'âge des personnages ?
Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Enfin, je ne sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, moi, ça m'étonne. C'est que le théâtre, voilà, c'est un lieu où la moyenne d'âge des spectateurs est extrêmement élevée. Et sur ce spectacle-là, on a énormément de jeunes, notamment de moins de 26 ans, parce qu'il est déplacé à 10 € pour les 26 ans. On en a beaucoup, vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, soit parce qu'ils viennent de sortir de l'adolescence, soit parce que ça les concerne encore énormément, et que la pièce est très frontale, elle est dure aussi, elle est parfois radicale.
C'est très intense.
Elle va explorer des choses extrêmement intimes sur tous les personnages, donc on sort pas forcément serein d'un spectacle comme ça qu'on a vécu ou qu'on vient de vivre ces choses-là, mais il y a quelque chose d'assez intriguant, je pense, pour les jeunes sur ce spectacle-là, et on le remarque dans les chiffres, vraiment, d'avoir une surreprésentation des jeunes par rapport à de spectacle qui est assez touchant, parce que c'est vrai que c'est un défi pour le théâtre de manière générale d'attirer des spectateurs plus jeunes pour pas qu'on se retrouve qu'avec des plus de 60 ans, donc c'est assez joyeux.
Non, non, et puis moi j'ai eu le contact avec des professeurs de français qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils avaient été très frappés par le langage, justement, parce que comme moi, ils disent que très souvent quand on fait parler des jeunes, il y a des choses qui ne sonnent pas bien ou c'est un peu...
C'est difficile, c'est une quête de réalisme, il faut aller chercher quelque chose de... Voilà, en tout cas, donc, moi ce que je fais, c'est j'essaie de faire un théâtre qui est le plus réaliste possible, le plus vivant possible, donc c'est pas écrit de manière poétique, c'est écrit de manière très parlée, j'essaie de faire apparaître des personnages, des émotions, quelque chose de très sincère, donc ouais, on cherche ça, tant mieux, ça marche.
Ah mais oui, c'est il y a une sincérité, il y a quelque chose qui emporte véritablement, et c'est vrai, je l'ai dit à Isabelle, votre attachée de presse, coucou mamie, et que ce qui m'avait plu, c'est que j'ai dit, mais là, il y a des comédiens, on va en entendre parler, quoi.
Je pense, ouais.
moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, et donc c'est ça aussi, qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe.
Quelque chose d'assez émouvant d'avoir de cinq jeunes acteurs comme ça pour la première fois, quasiment tous ensemble.
Dans 10 ans, j'y étais, je les ai vus. C'est votre première expérience professionnelle à vous aussi?
Oui.
Ouais. D'accord, ok.
Les autres ont un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus.
Bon, ce sont des vieux. Ouais.
Hein. C'est des vieux.
Et ça, quand même. Surtout celui qui joue Elliot, c'est un vieillard. Non, c'est ça le problème. Ben merci beaucoup. On refait nos annonces. Donc, vous dites, Yann.
Oui, je vous dis tout.
Vous dites le titre de la pièce, où ça se joue, le lien internet, tout. Allez hop, on bosse.
Très bien. Mais la pièce s'appelle De l'ambition. C'est un spectacle sur l'adolescence qui se joue à la Manufacture des Abbesses à Paris dans le 18e. Et vous pouvez réserver vos places sur le site de la Manufacture des Abbesses. Et ça se joue jusqu'à mi-novembre.
Et les tarifs?
Les tarifs, il y en a plusieurs. Et plein tarif est à 26 €. Et il y a des tarifs pour les moins de 26 ans à 10 €.
Ah.
J'ai pas la liste complète.
Ça, c'est presque moins cher des places de cinéma.
C'est moins cher
sur les Champs-Élysées. Ouais. Hein, donc, ça me sait peu. Je remercie infiniment d'être venu.
Merci
et
pour
j'aime toujours recevoir. Bon, je suis votre travail, comme vous le savez, depuis quelques années. Et bravo. Vous adresserez mes compliments aux autres. Que naturellement, on vous dirait qu'on les a traînés dans la boue et tout. Ce qui va vous mettre en confiance pour jouer. Merci infiniment à tous. Merci pour la réalisation à Francky. On se retrouve samedi 11h pour la Musicals. Et on se retrouve naturellement mercredi prochain. On parlera d'exposition. On parlera de l'exposition sur Frida Kahlo qui se trouve actuellement au Palais Galliera. Et il y a plein d'expositions à voir. Littérature, bande dessinée, Chakchlik, Eskimo Gervais et peut-être les premiers cadeaux qui vont arriver. Donc alors je sais que les filles sont décomposées, Yann aussi, parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de gâteau au chocolat, vous reviendrez pour nous parler de la centième, de l'ambition.
Et on espère qu'on aura une part de gâteau.
Ouais. Absolument, et la prochaine fois, ça sera prévu.
Super.
Vous serez peut-être horriblement déçus, une très mauvaise cuisinière. Au revoir à tous, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.